tête.
On n'a pas le choix, faut vivre avec.
En direct.
Avec JC et Patricia.
Radio X.
J'aime beaucoup nos discussions avec Christian Rioux, notre nouveau chroniqueur pour la saison. Très content qu'il ait accepté. Je le répète souvent parce que je suis vraiment content. Et vous êtes aussi contents, les auditeurs. J'ai un paquet de bons commentaires. On va le rejoindre à l'instant. Christian Rioux, comment vas-tu?
Ça va très bien. Tu vas-tu dire nouveau pendant 2 mois?
Oh, un an.
Un an.
Christian, es-tu de retour? Es-tu de retour en sol français, ma foi?
Oui, je suis de retour à Paris en ce moment, depuis quelques jours.
Puis ça, je suis content aussi parce que on avait eu ça dans nos discussions préliminaires à l'acceptation, je vais le redire, de notre nouveau chroniqueur, Christian Rioux. Puis je disais, c'est le fun parce que des fois, tu vas pouvoir nous amener un petit coup d'œil sur ce qui se passe en France. Souvent, il y a bien des pans de l'économie, de la politique française qu'on voit se développer, qui arrivent chez nous un peu plus tard. Puis évidemment, le thème de l'immigration là-dessus, je pense qu'il est majeur. T'sais, on peut clairement réaliser que la France a échappé son immigration. Je pense pas être le seul à le dire et à le penser. Et ici, tranquillement, on voit des choses qui arrivent avec un lag, avec un certain retard, mais qui finissent par nous rattraper. Et aujourd'hui, tu nous racontes une histoire que moi, je considère, dans mon monde que je m'étais bâti depuis que je suis tout petit, là, cette histoire-là, c'était impossible. Parce que quand on accueille des immigrants, c'est pour leur faire une place dans notre vie, dans notre culture, dans notre chez nous, dans notre pays. Et là, tu nous racontes une histoire, je te le dis, c'est quasiment un rêve éveillé.
Oui, c'était. Ben, écoute, c'est une histoire. Ben, c'est un événement un peu banal, mais en même temps tellement, je dirais, tellement significatif. Vous savez, vous avez visité la Tour Eiffel, j'imagine, à un moment donné dans votre vie.
Non, jamais. Ça. Pas non, eu la chance
jamais.
Encore. Non,
jamais. Jamais été à Paris encore.
Ben, jamais, ben il faut venir, il faut y aller. C'est la première destination touristique du monde, voyons donc. Je pense que la Tour Eiffel, c'est à peu près le premier monument.
Si tu connais quelqu'un qui a un logement pas cher, là, je serais preneur.
Ah, d'accord. En tout cas, le deuxième étage de la Tour Eiffel, le deuxième niveau de la Tour Eiffel, c'est ça sert souvent pour organiser des événements VIP, des espèces de des petits concerts. Moi, j'ai déjà vu un concert là, de Johnny Hallyday, par exemple, ou des événements VIP. Puis des grandes entreprises qui louent ça pour faire un cocktail.
C'est quoi? C'est une terrasse? Il y a un restaurant?
C'est une grande terrasse. Et puis, évidemment, on voit Paris. Une vue sur Paris absolument extraordinaire. Et samedi dernier, c'est un mouvement religieux qui a loué l'endroit. Un mouvement, c'est un peu difficile de prononcer le nom au complet, mais disons que l'acronyme, c'est BAPS. C'est un mouvement hindouiste qui aurait à peu près 1 million de fidèles dans le monde. Et donc, ces gens-là inauguraient un temple hindouiste en banlieue parisienne, là, près de l'Est parisien. Et donc, et évidemment, c'est un événement comme ils s'organisent régulièrement. Mais là, soudainement, les organisateurs ont demandé aux gens de la Tour Eiffel de faire disparaître les femmes, de les mettre de côté, de les exfiltrer. Ils les ont mis dans un ascenseur, puis ils les ont fait disparaître. Il n'était pas question que les dirigeants de ce mouvement religieux serrent la main à des femmes et même qu'ils les voient. Vous voyez, je sais pas si vous
voyez. Ils ne peuvent pas porter le regard, même sur une femme de dos, là, ils ne peuvent pas les regarder.
Oui, absolument. C'est un mouvement dont les dirigeants pratiquent une espèce d'abstinence là, complète, là, totale, et j'imagine même du regard. Et donc, il n'était pas question qu'il y ait des femmes. Donc, il y en a une vingtaine d'employés qui ont été discrètement mises de côté. Certaines ont été remplacées parce que, bon, il y a quand même des services à assumer à ce niveau-là. Et tout ça s'est fait incognito. Le lendemain, la nouvelle est sortie. Ça a créé un tollé, une espèce de vrai scandale. Hein. Il y a eu le maire de Paris est intervenu. Tous les futurs ou éventuels possibles candidats à la campagne présidentielle ont fait la même chose. Et ça a déclenché le lendemain une grève. Le lundi, la Tour Eiffel était fermée. Les touristes ne pouvaient plus y aller.
Les Français sont incroyables. possible.
Absolument. Immédiatement, il y a eu une grève de... Oui, la grève en France, c'est quelque chose, c'est un réflexe assez...
Ah oui, mais j'aimerais assez, ça des fois qu'on réagisse autant que les Français. Bon, ils ont leur côté sombre, les Français, mais là-dessus, quand le peuple se fâche, tu le sais tout de suite. Hein, c'est...
Oui, et je pense, j'ai tendance à penser que sur un événement comme ça, assez quand même à ce point-là scandaleux, c'était... je ne soutiens pas toutes les grèves, mais je vous dirais que celle-là, j'y aurais participé, parce que c'est un événement qui pose quand même une question fondamentale, jusqu'où une société d'accueil s'adapte à l'arrivée ou à l'intégration d'immigrants ou de personnes qui arrivent de culture étrangère. Et j'avoue que là, atteindre ce niveau-là, on est presque dans la farce, presque dans la caricature. Là. Ouais. Je pense, oui, on est presque dans la caricature. C'est comme s'il fallait que la société d'accueil s'adapte aux immigrants plutôt que le contraire, plutôt que les immigrants s'adapter finalement à la société qu'ils ont choisie, où ils veulent faire leur vie, hein, parce que c'est pas les gens qui viennent pas pour... c'est pas des touristes.
Mais c'est ça la vraie question qu'on devrait toujours poser à l'immigrant qui arrive ici. Pourquoi tu viens ici? C'est parce que il y a d'autres pays là, peut-être qui pourraient accommoder avec leur culture, leurs valeurs qui sont. Hey, on est loin des accommodements. Là, ici, on avait fait une histoire avec le bacon à cabane à sucre. On m'a dit de quoi ça? Là, on est loin. Et j'ai petite recherche pendant que tu racontais l'histoire. Là. Le BAP, BAPS, effectivement, le nom, je ne me risquerais pas non plus. Là.
Oui.
Donc,
oui.
Pour préserver leur pureté spirituelle, la doctrine impose une séparation total des hommes et des femmes. Ils ne doivent pas toucher, parler ou interagir visuellement avec des femmes. Ça s'applique également dans les entrées, les activités au sein des temples. Écoute, c'est plus qu'un voile, là. C'est la femme devient inexistante totalement.
Oui, inexistante. Elle est un personnage qui doit s'effacer complètement pour ne pas susciter, j'imagine, la tentation chez les hommes. C'est poussé à l'extrême. Il y a beaucoup de mouvements religieux où il y a une séparation des hommes et des femmes. Là, dans l'islam, par exemple, ou chez les juifs, il y a dans les temples religieux, il y a une séparation, mais ça ne va pas jusqu'à ne pas pouvoir serrer la main d'une femme. Moi, ça m'est arrivé une fois à TV5 en entrevue de me retrouver avec quelqu'un qui ne voulait pas serrer la main de la personne qui était à côté de moi, qui était une femme. Alors, c'est poussé à des niveaux extrêmes. Et dans quelle mesure nos sociétés sont capables d'accepter ça? Je trouve que nos sociétés, souvent, sont très naïves sur ces questions-là. C'est comme s'il fallait... c'est comme si l'immigrant, et je pense que c'est particulièrement vrai au Québec, c'est comme si l'immigrant était un dieu, hein, qu'il fallait absolument tout faire pour l'accueillir, pour l'attirer.
Pour un raciste, surtout. Là.
C'est de la naïveté ou c'est un manque de... Je sais pas, de se tenir debout et de dire nous aussi. Ouais. C'est plus que le courage, parce que je veux dire, c'est pas... C'est la vie, en fait. Notre vie, elle est ainsi. Les hommes, les femmes, c'est pas parce que tu vois une femme qui travaille qu'il faut que tu la caches parce que toi, t'es pas capable de la voir, puis ça va pas. T'sais, fait que c'est pas du courage, c'est juste de maintenir nos principes. C'est pas du courage, maintenir nos principes.
Ça devrait pas être du
Je pense pas que ça soit de la naïveté. Je pense qu'on a peur de maintenir nos principes. C'est-tu de la peur? Au lieu d'un manque de courage, c'est plus la peur nous envahit pour bien paraître.
Oui, il y a la peur, puis il y a peut-être le peu d'estime qu'on a de nous-mêmes. Hein? Peut-être qu'on ne valorise pas suffisamment nos valeurs, suffisamment ce qu'on est, puis suffisamment notre culture. Moi, j'ai toujours vécu toute ma vie dans des quartiers d'immigrants, à Montréal en particulier. J'ai des amis. Les immigrants qui arrivaient dans les années 50, ils arrivaient à Montréal, puis il n'y avait pas un comité d'accueil là, pour leur donner des bonbons, puis leur donner des cours. cours, des ci et des ça. Je ne suis pas contre le fait qu'on donne des services aux immigrants, mais ils arrivaient, puis ils s'installaient, puis ils s'adaptaient. Puis ils apprenaient la langue, puis ils se trouvaient un logement. Et puis, évidemment, ils s'intégraient dans la vie. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut leur faire la cour. C'est très étrange. Oui. On dirait qu'il faut leur faire la cour. Il y a un an à peu près, j'écoutais la radio, on parlait d'un projet à Montréal qui était destiné, qui venait de renouveler sa subvention, je pense, pour 3 ans, et dont l'objet, c'était de donner des cours de vélo aux femmes immigrantes. Je vous avoue, moi j'ai appris tout seul à faire du bicycle. Toutes les gens que je connais ont appris à faire du bicycle tout seul ou avec leur père ou leur mère.
Ouais, j'ai tenu le banc un peu de mes enfants. Là.
Et je comprends pas vraiment pourquoi il faudrait qu'il y ait un service pour apprendre à des femmes immigrantes à faire du vélo. Je m'excuse, là, j'ai l'impression qu'on tombe un peu dans l'aberration et dans la bêtise à ce niveau-là.
Mais ça va un peu avec l'air du temps. Tu sais, je veux juste revenir sur quelque chose que tu as dit que je trouve très intéressant. On ne valorise pas. Moi, je vais aller plus loin. Depuis quand même plusieurs décennies, on est dans une espèce de doctrine dominante de la détestation de nous-mêmes. Tu sais, nous sommes méchants. Nous avons fait des faux pas dans l'histoire. Nous avons... Puis là, mettons qu'on englobe les sociétés occidentales. Nous avons vécu de l'esclavage. Nous, tu sais, et depuis trop longtemps, je pense... Puis le but n'étant pas de se décrire comme étant des sociétés parfaites, de noter nos erreurs, mais d'arrêter de s'enfarger dedans. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, on a droit d'avoir fait des erreurs historiques. On n'était pas là personne. Je pense pas que Christian Rioux a participé à la traite d'esclaves. Là. Tu sais, c'est des histoires de nos ancêtres. Merci de le confirmer.
Surtout qu'il n'y en a pas eu au Québec. Donc.
En plus, c'est ça. Mais au-delà de ça, je trouve qu'on s'auto-flagelle constamment et je pense que ça vient avec... On se trouve tellement médiocre comme société... qu'on fait de la place aux autres. T'sais, montre-nous comment ça fonctionne. Fais-moi voir la beauté de ta religion, de ta société. Alors que, comme tu l'as si bien dit, l'objectif de l'immigrant, c'est de rentrer dans le tas. C'est de réussir à survivre dans une nouvelle société sans abandonner ses valeurs, mais en faisant l'effort de le faire. Et ça, on ne leur demande plus. Et c'est risqué.
Oui. Oui, on a tendance à pas le demander parce que peut-être qu'on manque de fierté, dans le fond, de ce qu'on est. Il y a une façon de se sous-estimer, de se dégrader aujourd'hui qui est assez surprenante là, et qui, je dirais, qui est inquiétante parce que si on n'est pas fier de nous-mêmes, on n'intégrera pas les immigrants.
Ouais.
Si on n'est pas fier de parler français, si on n'est pas fier de notre culture, de notre histoire, les immigrants, ils vont le sentir assez rapidement. Hein. Ils vont bien comprendre qu'on n'est pas un peuple qui va de l'avant, qui a un avenir et avec lequel il faudrait s'associer et auquel il faudrait participer. Et donc, c'est cette ambiance-là qu'on retrouve très souvent. Mais voyez-vous, heureusement, lundi, il y a eu grève à la Tour Eiffel. Il y a donc des gens qui sont capables de réagir. Et je pense que nous aussi, on est capable de réagir sur ces questions-là.
Et je pense que, puis là, les gens ici font grand bruit de ce qui s'est passé en Allemagne avec ce parti d'extrême droite qui est rentré, puis on martèle beaucoup l'extrême droite. Alors, moi, je pense qu'on devrait prendre des notes de ce que tu nous racontes aujourd'hui. Comme tu t'as dit au début, c'est un événement banal. C'est vrai que c'est un événement isolé sur la Tour Eiffel, mais qui nous démontre ce qu'est devenue la société française, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de place aux autres. On s'efface, on s'en va. Tu veux pas voir nos femmes, on enlève nos femmes, il n'y a pas de problème. Mais plus t'attends, parce qu'il y a encore des gens là, qui vivent dans le gros bon sens puis qui ont encore une espèce d'esprit logique de dire « Non, non, nous sommes chez nous, on peut être chez nous. » Moi, je pense que plus on attend, plus le backlash sera violent. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, les gens... C'est comme un presto, là. La pression monte, on accumule, on se ferme, on garde ça en dedans. Et quand ça explose, c'est jamais une bonne nouvelle. Donc, moi, je trouve ça intéressant, puis je trouve que nos dirigeants devraient prendre des notes là-dessus.
Oui, parce qu'il y a, quelque part, si on creuse ça vraiment, on découvre peut-être une forme de mépris quelque part des immigrants. C'est comme si les immigrants n'étaient pas capables de comprendre que les femmes et les hommes sont égaux dans nos sociétés. C'est comme s'ils n'étaient pas capables de comprendre finalement notre culture, puis comme s'ils n'étaient pas capables d'accepter aussi nos critiques, les critiques qu'on peut leur faire pour qu'ils s'intègrent mieux dans notre société. Il y a une sorte de mépris là-dedans. Ouais. On se dit, continuez à faire vos affaires, vous êtes des gens arriérés. Rester comme vous l'êtes, hein, pour le dire entre guillemets. Là. Je trouve qu'il y a un mépris des immigrants là-dedans. On ne les considère pas comme des égaux. On considère qu'ils ont des coutumes un peu arriérées puis qu'ils vont tranquillement peut-être s'en débarrasser, mais on est incapable de les considérer comme des égaux et donc de leur parler clairement et franchement.
Et cette peur, encore, je le répète, d'être traité de raciste, qui est dans notre société moderne une des pires affaires dont on peut être affublé. Se faire traiter de raciste, ça n'a pas de bon sens. Donc, on aime mieux se pencher puis laisser faire.
Oui, se faire traiter de raciste, ça a des conséquences dramatiques. Hein. Ça peut faire exploser la carrière de quelqu'un, ça peut le faire disparaître de la vie sociale, ça peut briser son ménage. Ah oui. Aujourd'hui, c'est l'accusation suprême. Hein. C'est vraiment terrible. Alors que je m'excuse, mais bon, j'ai voyagé un peu dans ma vie. Je pense que le Québec fait partie certainement des sociétés les moins racistes au monde, en tout cas.
Hey, mot, tu es en France, fait qu'on peut pas passer à côté. Oui. Le petit mot sur notre Québécoise qui est pas souvent au Québec, mais qui est Québécoise quand même.
C'est américaine, quasiment.
Ben, Céline vit pas mal aux États-Unis. Elle est là, pas mal en France, je dirais. Là, on me dit que c'est la Céline folie. Là. Elle est partout, les affiches, les billets sont vendus. Est-ce que c'est si gros qu'on le dit?
C'est un gros événement. Vous savez, cet automne, il y a deux grands événements en France. Il y a Céline Dion qui donne son premier concert samedi, et il y a le Pape qui vient deux semaines plus tard. Le plus drôle, c'est que le 25 et le 26 septembre, le Pape va être au Stade de France et Céline, le même soir, va être à la Défense Arena de l'autre côté de Paris. Wow. De l'autre côté de Paris. Donc, ils vont chacun avoir, je ne sais plus combien, de dizaines de milliers de personnes pour les écouter. Donc, ça va faire beaucoup de travail, je pense, pour la sécurité et pour les policiers. Mais c'est vrai que Céline, elle est très présente. Et ce qui est particulier, c'est que je pense qu'il y a un amour en France pour Céline Dion qui est assez important, parce que ça a pris du temps pour Céline Dion de conquérir les Français. Il a fallu qu'elle passe par le Québec, mais par les États-Unis, et c'est après. Ça a été long. Elle est venue plusieurs fois. Elle a fait l'Olympia.
Ça a même pris Jean-Jacques Goldman. Ça a pris un Français très connu. Là.
Absolument. Ça a pris Jean-Jacques Goldman, mais on s'aperçoit que cet amour-là, ben, il est fidèle. Je dirais donc qu'il n'est pas temporaire. Il a été long, la France a été longue à conquérir, mais aujourd'hui, elle reste fidèle et on le voit, en tout cas, dans les jours qu'on connaît en ce moment.
Donc, Céline ne pourra pas dire comme John Lennon qu'elle est plus populaire que Jésus, mais peut-être qu'elle est plus populaire que le Pape. Ça, peut-être.
On verra ça. On verra ça parce que le Pape est pas mal bon aussi pour ramasser du monde. Non, mais c'est vrai, en Europe, il y a des gigantesques rassemblements autour du Pape. On va voir ça la semaine prochaine.
Allez-y voir un spectacle de Céline?
Non, c'est pas prévu.
C'est pas prévu.
C'est pas prévu. C'est pas prévu, mais toutes les élites françaises vont être là. Hein?
Je peux vous dire que...
Oui. Absolument. Surtout,
on la voit beaucoup, là, c'était juste pour le mentionner, mais c'est parce qu'on la voit beaucoup en action là, devant l'hôtel là, où elle est installée. Oui. Elle prend le matin quand elle sort, puis le soir quand elle revient à sa chambre d'hôtel, elle prend le temps de saluer. Bon, évidemment, il y a les paparazzi, les journalistes, mais les fans, puis tout ça. Puis est-ce que, j'ai une question que hors propos, là, ça n'a pas rapport, mais est-ce que ça te tanne quand un artiste québécois prend l'accent français? Tu sais, comme Céline, là, on est passé vraiment du québécois à un français assez impeccable, on va se le dire. Puis là, quand on l'entend à Paris, à même petite touche française, il y en a pour qui ça les tanne et il y en a d'autres que ça les affecte pas. T'es dans quel camp?
Écoutez, si un Québécois prend totalement l'accent français au point de ne pas pouvoir le reconnaître, ça arrive, il y a des gens comme ça, en quelques jours, ils font ça. Ça, c'est évidemment que c'est un peu exaspérant. Mais qu'un Québécois arrive en France et qui parle un peu plus neutre, là, un peu plus clair, je pense ça, c'est juste normal d'une certaine façon. C'est-à-dire, il veut pas qu'on le fasse répéter. Il s'adapte, évidemment, un peu comme les immigrants. Il s'adapte au milieu, dans le milieu où ils sont, mais sans trahir leur accent. Là. Ouais. C'est normal.
Mais sinon, on se fait pas comprendre. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup de Français. Absolument. Ici au Québec, oui. Puis t'as pas le choix. Sinon, tu passes ta journée à te faire dire « je pige que dalle ». Fait que tu finis par...
Oui. Ceci dit, les Français s'en viennent bon pour décoder l'accent québécois. Là. Ils commencent à nous connaître pas mal bien. Je trouve que les Français nous connaissent mieux que nous, on les connaît des fois.
Bon, mais très bon. Merci, Christian. Toujours un plaisir. On se parle la semaine prochaine.
Bon, au plaisir. À bientôt.
Salut, bye. Christian Rioux, correspondant en Europe, chroniqueur depuis plus de 30 ans. Bref, c'est Christian Rioux. On revient.
Ouellette.
Téléphone, texto.
En direct.
418-670-9098.
Radio. Et...